Il est maintenu pour la direction des applications militaires, c'est-à-dire que un compromis est trouvé entre les Français et les Américains qui fixe un seuil au-delà duquel il faudra des contrôles américains renforcés. Et de toute façon, la direction des applications militaires utilisait depuis longtemps des machines CDC ou IBM installées à la CEMA, enfin à la SIA, à l'Institut français des pétroles et dans d'autres entreprises. Et ensuite, c'est les années 70 et c'est l'histoire que va nous raconter. C'est les débuts de TeamSeek et c'est aussi l'histoire qu'il va nous raconter. Voilà.
Jacques, tu devais.
Donc avant de passer la parole à Claude là, qui va nous raconter une partie de l'histoire du projet ISIS, je voulais juste faire un rappel bref là, sur un petit peu comment ces affaires de calcul sont nées. Donc, à l'origine, là, comme l'a raconté Pierre-Dominique, il y a des besoins de calcul. C'est ceux d'entre vous là, qui ont la curiosité de lire les œuvres complètes de Van Allen dans volume 5 par exemple. Il explique très bien là, sa motivation, pourquoi c'est important. Donc en gros, c'est important parce que tous les problèmes intéressants, en particulier dans les bombes atomiques, c'est des problèmes dits non linéaires. Donc c'est des choses dans lesquelles il n'y a pas de solution analytique. Il faut calculer et il faut des quantités de calcul considérables. Alors il s'était intéressé à la météo d'ailleurs également. Donc en fait c'est là. Et dans les œuvres complètes, d'ailleurs, on trouve un truc tout à fait intéressant, là où par problème, il commence à essayer de compter le nombre d'opérations qu'il faut faire pour résoudre un calcul. Donc, en fait, on pourrait dire que l'origine de ce qui est devenu après la complexité algorithmique, qui est un pan entier de connaissances de l'informatique théorique, ça a sa source ici, quoi. Donc c'est le nombre d'opérations à faire, les additions, les multiplications. Alors il y a, comme on va le voir extrêmement bien là, à travers l'exposé de Claude, là, donc le calcul rapide, c'est à la fois du hardware, beaucoup de hardware, et du logiciel, donc en particulier via les langages de programmation. Et en fait, il faut se partager le boulot, quoi. Alors les problèmes dont Claude va probablement parler là, donc il y a les problèmes de vitesse de commutation des composants, ça c'est la technologie joue un rôle primordial au début. Il y a des problèmes de parallélisme, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de ressources dans la machine, si on arrive à paralléliser l'emploi des ressources, on va pouvoir accélérer en fait la machine, et c'est déjà le cas d'ailleurs dans le prototype de von Neumann. Du tout début des années 50, quoi, voire la fin des années 40. Il y a déjà des espèces de trucs qui ressemblent à des pipelines. Un point très important, là, c'est dans un ordinateur, il y a des opérations rapides et des opérations lentes. Donc si la machine est synchrone, elle va marcher au rythme de son organe le plus lent, comme on sait depuis longtemps, et elle va être donc très lente. Donc il faut rendre les opérations lentes asynchrones. Donc là, comme on parle quand même pas mal de bulles, par exemple, il y a une machine de bulles, là, qui est le Gamma 60, qui a occasionné la faillite de bulles, et son rachat par General Electric, qui est une machine dans laquelle il y a du parallélisme entre le cœur de la machine et les entrées-sorties. Je ne sais pas si on peut comparer ça au parallélisme qu'il y a dans des machines comme le Control Data. C'est-à-dire, par exemple, le Control Data, il y avait l'unité centrale au centre de la machine, c'est une espèce de tour. Et puis il y avait les processeurs périphériques, donc j'en ai connu une où il y avait une dizaine de processeurs périphériques, puisque comme on va le voir dans l'exposé de Claude, les machines de calcul intensif ont besoin de beaucoup de données, quoi. Par exemple, quand on fait une expérience au CERN, là, et qu'on recueille l'information élaborée là, dans les grands capteurs qu'il y a sur le LHC, là, c'est des milliards d'octets d'informations qu'il y a, là. Même des milliers de milliards. Donc il y a des gros problèmes d'entrée-sortie. Il y a bien sûr le problème d'architecture générale de la machine, donc là, Claude expliquera ça parfaitement bien. Il y a des problèmes de pipeline. qui commence à devenir sophistiqué. Donc, dans une des machines qu'a mentionné Pierre, là, il y a la 360-91, là où il y a déjà un pipeline qui n'est plus le truc à quatre superpositions qu'il y avait dans la machine de von Neumann. Là, c'est des trucs très compliqués du point de vue hardware. Et pour les optimiser, c'est là que les compilateurs, les Fortran, vont jouer un rôle important, quoi. Alors, pour écrire des programmes qui s'exécutent sur ces fameuses machines, les physiciens ont inventé un langage qui deviendra le Fortran, donc ça remonte aux années 50. Les notations qu'utilisent les physiciens ou les mathématiciens, là, les notations indicielles, là, les matrices, les tensors, des choses comme ça, si je les traduis bêtement dans la machine, ça va me générer une énorme redondance, donc il y a un gaspillage des ressources, donc on va demander au compilateur de faire un petit peu le nettoyage et de transformer le code que les physiciens savent lire en un code que la machine sait exécuter optimalement, quoi. Donc c'est le début de l'histoire des compilateurs, et les gens qui ont fait des compilateurs, là, savent tous qu'il y a un compilateur, je dirais, culte, hein, qui est le compilateur du Fortran H, qui a été fait par un architecte d'IBM, enfin deux architectes qui s'appelaient Metlock et Lovry. Et ça a été longtemps, enfin, dans les équipes de compilation que j'ai dirigées, moi chez Bull, hein. Malheureusement, j'ai jamais pu enseigner ça au CNAM, quoi. On n'enseigne plus l'ingénierie des compilateurs depuis longtemps en France, quoi. Donc c'était le compilateur culte, et pendant 10 ans, on a essayé d'imiter ce compilateur, on le comprenait parfaitement bien. Jacques Thibault, là, qui est là, pourrait vous en parler, par exemple. Alors, juste pour vous donner un exemple, hein, qu'est-ce que va faire le compilateur? Par exemple, l'alignement des données. Donc, les machines, elles sont lues, c'est des mots, quoi, qui sont lus par la machine, c'est pas des bits. Si les données sont à cheval sur des mots, ça va désoptimiser le fonctionnement de la machine. Enfin, c'est les problèmes de largeur de bus dont vous avez entendu parler. Et rien que ça, ça peut faire un facteur 2 sur le temps de calcul. Donc si vous avez une simulation qui dure 24 heures, c'est rien du tout pour une grosse simulation, vous doublez le temps. Et bien sûr, l'organisation des données, ça c'est beaucoup plus sensible. Et là, on est dans des ordres de grandeur, quoi. C'est 10 à 100. Et donc, on va demander au compilateur cette assistance. Hein, et c'est des choses qu'on comprend très bien, d'ailleurs, quand on fait des bases de données. Donc, comme j'ai eu la chance de diriger l'équipe base de données chez Bull, là, j'étais très très sensible à ça.